Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Qui a inventé la chirurgie esthétique ? Qui, on ne le sait pas vraiment, on pourrait répondre d'une façon très générale, la chirurgie réparatrice. Les chirurgiens qui réparaient, donc, ou tentaient de réparer les mutilés, les gueules cassées de la Grande Guerre. Mais d'un autre côté, le lifting existait aussi dès l'Antiquité. Alors quelles sont les femmes, aujourd'hui, ou en tout cas en 1961, qui avaient le plus besoin de la chirurgie esthétique ? Les femmes des classes sociales basses. C'était pour se défendre. On était donc en 1961, on l'a dit, sur Paris Inter, dans Rendez-vous à 5 heures. Marie-Thérèse Guinchard recevait Christian Claoué, chirurgien esthétique.
Recomptez.
5, 4, 3, 2, 1, 0. La femme moderne ne subit plus son destin, elle le domine. La femme moderne reste jeune, sinon éternellement, en tout cas très longtemps. Grâce à une science toute nouvelle, une science mise exclusivement à son service, la chirurgie esthétique, c'est exact, docteur ?
Non, c'est faux. Malheureusement, dans le destin moderne de la femme ne le domine pas, elle est complètement dominée. Elle est perdue dans une société à laquelle elle n'est pas encore adaptée, parce qu'elle a perdu ses fonctions traditionnelles de mère, d'épouse, de directrice de foyer. Elle est livrée elle-même, elle doit avoir un métier, elle n'est plus comme autrefois protégée par l'homme qui avait besoin d'elle. Elle est libérée, elle est obligée de se défendre comme un homme, mais elle n'est pas encore considérée comme un homme. Et sa beauté reste sa valeur. Et c'est pour ça que, dominée par la société, elle est obligée d'être plus belle.
Et elle a donc recours maintenant aux moyens qui sont mis à sa disposition.
Justement, parce que c'est pas parce qu'elle est dominée, parce qu'elle domine la situation, c'est parce qu'elle est dominée par les événements, qu'elle sent que ça va mal, qu'elle sent qu'il faut qu'elle soit bien pour trouver sa place dans la société, qu'elle est obligée de faire appel à des chirurgiens, à des gens qui s'occupent de beauté.
Et cette beauté de laquelle on s'occupe maintenant, c'est une découverte très récente ou bien est-ce une science que l'on connaissait déjà il y a très longtemps ?
Or, le problème de la beauté, au moins au point de vue de la chirurgie, est de tous les temps. Toujours, même les peuplades les plus primitives se sont occupées de faire une espèce de chirurgie de la beauté. On sait que les nègres faisaient des tatouages esthétiques. On sait que les Incas se déformaient les oreilles, ce qui était un signe de caste. On sait que les Hindous déjà réparaient des visages qui avaient été mutilés. Donc la chirurgie plastique qui répare les têtes et la chirurgie esthétique qui les améliore ou qui les modifie dans un sens social est de toujours. Elle a toujours existé.
Mais peut-on considérer que la chirurgie esthétique telle qu'elle est pratiquée maintenant puisse ses origines dans ses méthodes ancestrales?
Oui et non. En réalité, la chirurgie esthétique a pris un développement formidable depuis la guerre de 14, où les progrès techniques et la résistance de l'anesthésie ont permis à des chirurgiens qui avaient fait de la chirurgie de guerre, après, d'embellir les femmes, ou même les hommes. Quand la paix est revenue, on leur a fait appel à eux. Mais en réalité, ces techniques existaient depuis très longtemps. Par exemple, la technique des opérations de poche sous les yeux est très bien décrite dans Ambroise Paré au 15e siècle. Donc tout ça n'est pas tellement nouveau. Même le lifting est décrit par Guy de Chauliac dans des traités manuscrits où on voit des petites miniatures, on voit comment on peut remonter les rides en faisant une petite passe dans les cheveux.
Mais qui a remis cette chirurgie en pratique et à quelle époque ?
Vous savez, on ne peut pas le dire. Les gens qui ont remis cette chirurgie en pratique sont essentiellement les chirurgiens militaires qui, au cours de la guerre de 14, particulièrement tant en Allemagne qu'en France et aussi un peu en Angleterre, après la guerre, se sont trouvés sans patients, ils n'avaient plus de gueule cassée à soigner, et il y a eu une demande de gens qui voulaient s'embellir. En réalité, l'origine de ce départ, c'est d'abord il y avait des chirurgiens capables de réparer des nez à la suite des guerres, et d'autre part est apparue la photographie, qui a provoqué chez les gens qui faisaient de la photo, qui étaient photographiés, le besoin de se faire raccourcir le nez pour être photogénique. C'est ça qui a été le départ de tout, et après, on a su qu'on raccourcissait des nez, et de là, on est arrivé à rajeunir les gens et à faire différentes autres opérations, la chirurgie du nez étant le point de départ de la chirurgie esthétique.
Parlez-nous des pionniers en France.
Alors vous savez, en France, on peut dire que les pionniers de la chirurgie esthétique ont été essentiellement des chirurgiens militaires comme le docteur Virenc, le docteur Dufour-Mantel. Mais les gens qui l'ont lancé, si vous voulez, sur l'angle proprement esthétique, c'est-à-dire qui s'occupent vraiment de la beauté, qui ne traitent pas essentiellement des gens qui ont eu la gueule cassée, qui ont été vraiment abîmés, ce qui est dans le cadre plutôt de la chirurgie réparatrice. celle qui répare les grands accidents, eh bien, ce sont des gens comme Madame Noël, qui était une femme médecin, qui a été très connue pour remonter les visages, les améliorer, qui a parcouru le monde en montrant des résultats qui étaient très honorables, mais surtout, elle avait une grande foi dans son métier. Et puis, il y a eu également le docteur Claouet, qui a été très illustre, et parce qu'il a créé des méthodes nouvelles, et surtout qu'il a mis l'accent sur ce problème strictement de beauté, et également sur les problèmes psychologiques qui s'attachent à cette chirurgie esthétique.
Quand a été pratiquée la première opération, et sur quelle femme ? Peut-on citer des noms ?
Il est bien difficile de citer des noms, car beaucoup d'actrices illustres et encore d'ailleurs vivantes, même si elles sont très âgées, ont été opérées. Et ce sont les vedettes et les femmes comme ça qui ont répandu la notion que la chirurgie esthétique pouvait se faire, c'est-à-dire qu'on pouvait améliorer les visages.
Est-ce que ce sont encore les mêmes femmes qui viennent vous consulter, ou bien avez-vous également des femmes de conditions plus modestes ?
Comme je vous le disais au début, l'origine, le développement de la chirurgie esthétique est surtout dû aux modifications de la société contemporaine, et les gens qui en ont le plus besoin sont indiscutablement les gens de société de position sociale modeste, parce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin, soit pour défendre leur métier, soit pour défendre leur bonheur, parce que n'ayant pas d'argent, ils ont plus de peine que les autres à amortir des ennuis, n'ayant pas les divertissements que donne l'argent.
Vous considérez donc que la chirurgie esthétique est beaucoup plus un moyen de défense qu'une coquetterie pour certaines femmes,
vous
pour
savez,
beaucoup de femmes peut-être.
Je préfère par-dessus tout la femme qui vient se faire opérer par coquetterie, parce qu'elle me dit, je voudrais qu'on me diminue un peu mon nez, je voudrais qu'on m'épaississe un peu mes lèvres. Moi, je suis très content parce qu'elle veut faire ça uniquement par coquetterie, elle a son résultat, elle est très satisfaite. Par contre, quand elle vient me voir parce qu'elle a des ennuis, que la vie est difficile, évidemment, ma chirurgie esthétique peut l'améliorer, mais ne lui résout pas toujours ses problèmes de vie, de bonheur conjugal ou de problèmes sociaux. Et alors, elle n'est pas toujours absolument satisfaite d'un résultat même très bon, parce que ça ne résout pas ses problèmes, car les gens espèrent tout d'une opération de chirurgie esthétique. C'est pour ça que le chirurgien qui s'intéresse à la question est absolument obligé d'un peu suivre ses balades en dehors, si vous voulez, du problème strictement esthétique et technique.
Car c'est un véritable miracle qu'on attend de vous, en réalité. La femme vient vous trouver parce qu'elle a des ennuis personnels, pas seulement parce qu'elle a un physique qui est plus ou moins avantagé ou plus ou moins désavantagé, non, devrais-je dire.
Oui, n'est-ce pas ? Quand vous avez des ennuis, que rien ne va, que le mari est méchant, qu'on a des pépins professionnels, alors on est cafardeux, on n'est pas en forme, alors on s'en l'est dit, on dort mal, le matin on a les traits tirés, on se regarde devant sa glace, on se dit « Oh, c'est pas étonnant que rien n'aille si mal quand on a une si sale gueule. » Et tout ça, ça transpire surtout à notre nature. Et, si vous voulez, c'est cette ambiance psychologique qui fait que nous sentons particulièrement notre laideur, si nous en avons, ou même notre fausse laideur, parce que je vois arriver des femmes qui sont très belles.
Donc c'est un complexe qui est créé chez la femme.
Oui, il y a une ambiance psychologique qui crée le besoin de chirurgie esthétique, puisque vous voyez des femmes très laides, et qui n'en éprouvent pas le besoin, et qui sont très heureuses telles qu'elles. Donc tout va bien. C'est pas le problème, si vous voulez, de la chirurgie esthétique ne se situe pas autour du problème de la beauté pure, mais de notre adaptation à notre tête.
Mais est-ce la généralité, ou bien prenez-vous actuellement des cas précis ou des exceptions ?
Oh, c'est la généralité, voyez-vous. Même les gens qui se font opérer dans un but professionnel, par exemple la femme qui vieillit, qui est vendeuse et qui craint qu'on lui prenne sa place par une plus jeune. Eh bien, même quand elle se fait opérer dans un but professionnel qui est très simple, il y a toujours une ambiance psychologique qui fait qu'en même temps, elle a peut-être quelques petites difficultés familiales ou autres qui viennent encore mettre une note plus affective dans cette demande.
Et la chirurgie esthétique...
C'est pour ça que c'est très complexe.
Et c'est à la portée des bourses très moyennes ?
Ah, vous savez, la chirurgie esthétique, à l'origine, semblait une chirurgie extrêmement onéreuse, parce que les personnes qui la voyaient de loin croyaient toujours que c'était un luxe inutile. Lorsque le chirurgien consciencieux saisit l'urgence de certaines opérations, la nécessité absolue où se trouvent certaines personnes d'être peut-être même pas améliorées, mais modifiées physiquement, de perdre cet aspect qui leur portait malheur, eh bien, devant ce besoin, le chirurgien est obligé de se mettre à la portée de ses malades. Et je crois que tous les chirurgiens dignes de ce nom, sachant que la chirurgie esthétique pure, celle qui embellit, n'est pas couverte par la sécurité sociale, ont l'habitude de se mettre à la portée des gens qui ont des petits moyens et de leur demander leur feuille de paye et de voir comment ils pourront leur faire se mettre à leur portée.
En réalité, c'est plus souvent une nouvelle âme qu'un nouveau visage que vous donnez à certaines de vos clientes.
Il faut donner les deux. N'est-ce pas ? Je crois que le nouveau visage n'est pas tellement rentable s'il n'y a pas une modification psychologique. Parce que quand on a un visage, même pas très beau et qu'on est heureux, il n'y a aucune raison qu'on se fasse changer, donc on ne se fait pas changer la tête. Ça ne fait pas de question.
Mais...
Sauf les besoins professionnels.
Lorsqu'une cliente vient vous trouver, docteur, sur quel canon de la beauté vous basez-vous pour remodeler son visage ? Vous inspirez-vous peut-être des règles antiques d'Aristote, par exemple, qui prétendait que les caractères essentiels de la beauté étaient la coordination, étaient la symétrie, étaient la précision ?
La chirurgie esthétique peut se distinguer en trois parties. La chirurgie de rajeunissement, où il n'y a pas besoin de tests. On cherche à revenir en arrière. La chirurgie du corps, par exemple celle des seins, celle des cicatrices au niveau du regard, des ventres en tablier, malformations des cuisses, etc., où les problèmes esthétiques purs sont peut-être un peu moins précis. Et puis la chirurgie de la morphologie même du visage, chirurgie du nez, chirurgie de la bouche, chirurgie des lèvres, chirurgie du menton, où évidemment il faut des tests. Ces tests, très difficiles de les avoir. Et moi, personnellement, chacun a ses opinions, je me réfère beaucoup, beaucoup plus qu'à l'Antiquité, aux peintres de la Renaissance italienne, qui sont, à mon avis, de très grands maîtres au point de vue esthétique, et ce sont eux que j'ai tendance à suivre. Mais en fait, ceci est une question de goût individuel, et il est utile, peut-être, de se servir de certaines données des anciens, telles que, par exemple, le compas de Pythagore, que vous voyez là, qui est toujours ouvert sur mon bureau, et dont je me sers facilement.
Vous avez une quantité de masques dans votre bureau. Est-ce que ce sont les masques de personnes que vous avez opérées, ou bien,
Oui.
Est-ce que ce sont des modèles ?
Bien justement, comme je vous le disais, quand il ne s'agit pas de rajeunissement, mais de modifier la morphologie des traits, il faut faire attention. Il faut évidemment faire quelque chose qui soit social, qui plaise socialement, mais il faut aussi faire quelque chose qui soit adapté à l'esprit du sujet. Que la femme qui vous fait une demande, tout à coup se retrouve avec un visage qui lui plaît. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de faire de ces dossiers photographiques très fournis que l'on retouche et ces moulages en plâtre que l'on retaille en disant « bon, bien, on va vous faire cela ». De cette manière, les opérés savent où elles vont.
Et alors, à partir du moment où vous avez décidé de la modification à apporter à un visage, vous consultez la patiente malgré tout.
Mais justement, je fais l'étude avec elle. Par exemple, ces deux moulages que vous voyez là, il y en a un qui n'a pas été corrigé, et l'autre, vous le voyez avec son nez un peu plus petit et son menton légèrement reculé.
Vous tenez compte des désidérations.
Je l'ai gratté devant elle. On a travaillé le moulage ensemble. Ça me permet de me faire une idée de ses idées, de son point de vue, et de mieux m'adapter à elle. Et d'ailleurs, participant à l'opération, elle en tirera un plus grand bienfait parce qu'elle sentira que c'est un petit peu son désir qui a été suivi.
Car la patiente n'est pas endormie.
La patiente ou le patient, parce
le
que
patient.
Nous opérons peut-être trois hommes pour cette femme, ce qui est assez important. D'ailleurs, beaucoup d'accidents, de coups sur le nez, de joueurs de rugby, de boxeurs, etc.
Ce ne sont pas les mêmes raisons.
Si, il y a des hommes qui sont ennuyés et qui se font améliorer. Hier, oui. J'ai opéré un monsieur des rides, ce qui est tout de même assez rare, mais qui se fait quand même de temps en temps. Eh bien, ces opérations de chirurgie, vous me demandez comment je les faisais au point de vue anesthésie.
Oui.
Oui, vous savez, la chirurgie de la face, chirurgie esthétique de la face, aussi bien celle du rajeunissement, les rides qu'on remonte, le visage qui tombe, qu'on remonte, ou les opérations des yeux, les poches sous les yeux qui plient des yeux, comme celle du nez, des lèvres, du menton, tout ça, ce sont des opérations très bénignes. Et on peut très bien les pratiquer à l'anesthésie locale. Évidemment, l'anesthésie locale ne plaît pas beaucoup aux personnes parce qu'elles se pensent qu'on va leur faire des piqûres qui font mal. La technique est très simple, on les endort 2 minutes, le temps de faire les piqûres, ce qui est absolument anodin, est absolument dénué de risque et ne présente pas tous les inconvénients de la vraie anesthésie générale avec son intubation, son coma anesthésique et tous les dangers qui s'attachent à cette anesthésie.
Et l'opération dure combien en général ?
Vous savez, on peut dire qu'en moyenne, les opérations de chirurgie esthétique durent 1 heure.
Et
les opérations du nez durent 3/4 d'heure, les opérations de lifting 1 heure, les opérations des yeux 1h10.
Et vous gardez l'opéré en clinique ensuite ?
Tout à l'heure, vous avez vu une personne que je venais d'opérer d'un lifting et qui va rentrer dans sa famille. Et elle n'a même pas dit à ses petits-enfants qu'elle était opérée, ni à la femme de chambre. Alors elle rentre, elle dit « j'ai mal aux oreilles ». Alors elle a un pansement autour de la tête, mais on ne voit pas qu'elle a été opérée. Elle dit « tiens, elle a eu... »
Le choc psychologique sera pour la famille ce soir.
Oui, ils ne se rendent pas compte. Évidemment, le visage est remonté, mais... Il est rare que les personnes soient très observatrices, elles sont très inquiètes par le petit pansement, elles ne vont pas se rendre compte.
Nous avons parlé jusqu'à maintenant des opérations les plus bénignes, les plus connues, les plus courantes. Et quelles sont les autres qui sont actuellement pratiquées, dont on parle moins ?
Vous savez, les opérations dont on parle moins sont celles qui sont souvent liées à des malformations plus rares. Le menton, je vous en ai parlé, c'est moins courant que la chirurgie du nez. Mais enfin, on avance et on recule très facilement un menton. La chirurgie des lèvres également est un peu moins courante. On les épaissit, on les amincit, on avance la lèvre supérieure, on recule la lèvre supérieure, enfin, en agissant sur les dents ou sur la lèvre ou sur les muscles. On peut également agir sur les pommettes, qui jouent un grand rôle dans la mimique. On peut les avancer, les reculer. On peut agir sur cette fosse qui s'appelle la fosse canine, qui aggrave le sillon nasogénien que les femmes appellent le rictus. Et on peut les remplir en mettant des petites greffes dedans pour enlever cette espèce d'enfoncement qu'on
peut avoir. Et toujours sans cicatrice.
Ah, autant que possible, en chirurgie esthétique, il ne faut pas de cicatrice, au moins de cicatrice qui évoque la chirurgie. En général, on rentre par les cavités naturelles, on rentre par la bouche, on rentre par le nez, on rentre
même... Est-ce douloureux ?
Je vous ai dit, c'est indolore. Si une anesthésie locale est bien faite, elle est parfaitement indolore, on ne sent rien. Et elle a même l'avantage de se prolonger assez longtemps. Il y a des anesthésies qui durent 24 heures et il n'y a aucune douleur post-opératoire. Dans la chirurgie esthétique, il n'y a qu'une opération qui fait un petit peu mal, ce sont les oreilles décollées. Et souvent, l'effet aux enfants, alors comme les enfants sont douillets, eh bien, après l'opération, quand 2 heures après ou 3 heures après, ils ont l'impression d'avoir l'onglet aux oreilles, vous savez, comme quand il fait froid. Alors on leur donne un bon somnifère, ils dorment, le lendemain c'est fini.
Est-ce que ça rentre déjà dans le cadre de la chirurgie dite réparatrice, le décollement des oreilles ?
Eh bien, oh non, c'est de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, la chirurgie esthétique, c'est celle qui traite le sujet normal qui veut être mieux. La chirurgie réparatrice, c'est celle qui traite le garçon ou la femme qui a reçu un accident, qui a reçu un coup, qui a reçu une balle, qui a perdu quelque chose et qu'on répare après accident. Voyez-vous, la chirurgie esthétique, ça traite le sujet absolument normal. Il a une petite ride, il a un nez un petit peu long, il a une lèvre un peu trop fine, mais on l'améliore. C'est pour ça d'ailleurs que cette chirurgie est un petit peu particulière dans son point de vue.
Et en ce qui concerne le corps, à part les seins, bien sûr, les seins, je crois que c'est une opération qui est pratiquée depuis pas mal de temps. Quelles sont également les autres parties du corps que vous pouvez réparer, puisque le mot...
Je ne suis pas chaud pour la chirurgie du corps, en dehors de la chirurgie des seins. Je n'en suis pas chaud. Vous savez, les seins donnent des bons résultats, ils ont quand même l'inconvénient de laisser des cicatrices, mais enfin, en échange, on a quand même des seins bien formés et solides et fermes. Et petit ou de taille moyenne, selon ce qu'on désire. Mais par contre, la chirurgie du ventre se fait. Quand le ventre est trop abondant, je suis femme âgée. La chirurgie des cuisses est déjà pleine d'aléas. Mais de là à en arriver à ces opérations excessives que nous avons lues dans les journaux de personnes nordiques qui s'étaient fait raccourcir de 5 cm les deux fémurs, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'il faut proportionner les risques aux résultats. Et voilà une femme qui avait 1m95, on lui fait 1m90 et en échange, on lui enlève 2 petites rondelles de fémur, on la met au lit au moins 2 mois et on prend les risques de pseudarthrose, de complications infectieuses, d'embolie, sans compter qu'elle ne va pas être plus belle parce qu'elle est 1m90 plutôt qu'à 1m95, qu'elle aura des cicatrices, les muscles un peu noués parce qu'ils sont raccourcis d'une façon artificielle. Moi, je crois qu'en chirurgie esthétique, il faut surtout être très prudent pour obtenir des résultats sûrs et sans risque.
Bien, docteur, vous m'aviez promis de me laisser assister à une opération. Est-ce que ce sera possible demain ? Nous pourrions peut-être ainsi faire participer nos auditrices au déroulement de cette opération et puis recueillir éventuellement après les impressions de la patiente.
Eh bien, écoutez, je crois que c'est très simple. Demain, nous allons avoir deux patientes, l'une d'un nez et l'autre d'un lifting. Je crois que ce serait très intéressant pour vous d'assister à l'opération, d'autant plus intéressant que nos opérés, étant fait opérés à l'anesthésie locale, ils sont capables de parler et même de vous dire leur opinion pendant qu'on les opère.
À demain, donc, sur la table d'opération.
Pas de traces, hélas, dans les archives de l'INA. De la suite de cette émission, nous ne saurons jamais comment s'étaient déroulées ces opérations. Très bien, sans doute. Au micro de Marie-Thérèse Guinchard, c'était Christian Claouet, chirurgien esthétique, dans l'émission Rendez-vous à 5h sur Paris Inter le 28 février 1961.